الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. وبعد، ما زلنا في باب أو في فصل في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين. Nous sommes toujours dans l'étude des invocations à dire lors de l'inclinaison, lorsqu'on se relève de l'inclinaison, lors du sujoud, de la prosternation, et lors de l'assise entre les deux prosternations. هذه الأحوال المذكورة في هذا الفصل هي أحوال المصلي وهي أربعة لا تخرج عنها. Cet état cité ou ces états cités dans cet intitulé ou dans ce chapitre sont les états de celui qui a accompli la prière. Il est soit debout, soit incliné, soit en train de se relever de l'inclinaison, soit en prosternation, soit assis entre les deux prosternations. Et pour chacune de ces situations, il nous a été légiféré des invocations afin de nous rapprocher encore et toujours d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que la certitude nous vienne, c'est-à-dire la mort. Nous avons vu hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, l'invocation rapportée par Hudhayfah ibn al-Yaman radiallahu anhu. Qui est-ce qui, donc, la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'inclinait, puis ce qu'il disait lorsqu'il se prosternait. فَمَنْ يُذَكِّرُنَا بِهَا. Qu'est-ce qui nous le rappelle? أَلَا تُصَلُّونَ. Faites pas la prière. En ruku', qu'est-ce qu'on dit? Subhana Rabbi al-Azim. Ma ma'ana subhan? Que signifie subhanallah? Qu'Allah est exempté de tout défaut, de toute imperfection, de toute similitude avec ses créatures. Na'am. Barakallahu fikum. Al-Azim ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala متضمن لصفة العظمة. فالله سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، وأسماؤه عظيمة، وصفاته عظيمة، وأحكامه عظيمة، وأفعاله عظيمة، فهو العظيم سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى c'est l'immense. Ses noms sont immenses et les plus magnifiques. Ses attributs sont immenses et les plus magnifiques. Ses actions, ses les règles qu'il a instaurées et légiférées. Barakallahu fikum. Donc, yusabbihu Allah wa yadhkur azamatah. Et en prosternation, qu'est-ce qui nous a été légiféré de dire? Tu as mal au dos? Oui. Non? D'accord. Rifqan bik, donc par douceur. Pour toi, je ne vais pas t'interroger parce que tu es loin, sinon tu vas devoir élever ta voix. Barakallahu fik. Naam. Subhan Rabbi al-A'la. En ruku', on a cité al-Azama. Et en sujoud, nous avons cité al-Ulu, l'élévation. Naam. Et nous avons vu la sagesse qu'il y avait dans cela. Lorsque la personne... Donc, puis nous avons vu le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Puis nous avons vu le hadith de Ali radiallahu anhu. An salatin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idha raki'a yaqulu fi ruku'ih Allahumma laka raka'at. Oh Allah, c'est pour toi que je m'incline. Quelle est la sagesse d'avoir cité avant le verbe et son sujet ماذا الحرجاب نعم j'ai pas entendu, excuse-moi. Là. L'exclusivité à l'ikhtisas. Naam. Pour que le recours soit exclusivement fait pour Allah. Tu ne dis pas, oh Allah, je m'incline pour toi. Naam. Tu dis, je m'incline que pour toi, ya Allah. Si tu dis, je m'incline pour toi, tu peux t'incliner pour Allah Azza wa Jal, mais ça n'empêche pas que tu puisses t'incliner pour autre que lui. Alors que dans cette syntaxe, la karaka'at, il y a l'exclusivité dans le ruku' que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Allahumma la karaka'at, wa bika amant, wa laka aslamt. Ici, on a cité l'iman wa l'islam dans la même phrase. Lorsque l'islam et l'iman est cité dans le même contexte, à quoi fait référence l'islam et à quoi fait référence l'iman? Na'am. L'islam, les actions apparentes, et l'iman, intérieur, la croyance, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Et lorsque l'islam est cité seul ou bien l'iman seul? Lorsque l'islam est cité seul ou bien l'iman seul, alors à ce moment-là, ça englobe tout. Naam, ça englobe tout l'islam. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Pourquoi avoir détaillé de cette manière? Pourquoi ne pas avoir dit, yani citer la personne elle-même directement? Quelle est la sagesse qu'il y a dans cela? D'avoir détaillé, lui, la vue, les nerfs, le cerveau et autres. Naam. Pardon? Naam, ça nous montre que l'ensemble des membres de la personne doivent s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala durant cette salat. ففي هذا التفصيل استدعاء للخشوع. Ça t'appelle à la concentration. Ton ouïe, ta vue, tout ce qu'il y a sur toi, بالتفصيل, doit s'humilier pour Allah تبارك وتعالى. نعم, doit s'humilier pour Allah سبحانه وتعالى. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد. Et lorsqu'il relevait sa tête du ركوع, il disait عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمد. متى نقول هذا الدعاء أو هذا الذكر؟ À quel moment nous prononçons cette parole? Pendant qu'on se relève. في أثناء الرفع من الركوع. Donc tu es incliné. Pendant que tu te relèves, tu prononces cette parole. Tu dis سمع الله لمن حمد. Une fois debout, qu'est-ce que l'on dit? Naam. Rabbana wa lakal hamd. Semi'a Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'. Yasma'u kulla shay. Est-ce que c'est ce qui est voulu de manière absolue ici dans ce hadith? Indaman. Que signifie semi'a Allahu liman hamida? Ce qui est voulu, c'est l'écoute, mais une écoute particulière comprenant la réponse à l'invocation de celui qui loue Allah subhanahu wa ta'ala. Sam'u ijaba. Sam'u ijaba. Mutawamminun lil ijaba. Sam'un yasma'u biha aswat al-muslimi al-da'in al-musalli. Barakallahu fikum. Inna Rabbi la sami'u du'a. Inna Rabbi la sami'u du'a. Ça a le même sens. La sami'u du'a dans ce verset est le même sens que l'on trouve ici dans ce hadith. À ce passage, Al-Shaykh, Havidahullahu Ta'ala, a attiré notre attention sur le waw. Qu'il y a dans Rabbana wa lakal hamd. Et ceci en prenant exemple sur le grand savant Muhammad ibn Abu Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr. Qui est Muhammad ibn Abi Bakr? Le connu sous quelle appellation? Ibn al-Qayyim. Ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyya. D'accord? Est-ce que l'on peut dire Ibn al-Qayyim al-Jawziyya avec Alif Lam pour al-Qayyim? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, comme ça? Tu vas pas voir. Mal à la gorge, je t'interroge de là. Tafadhal. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, est-ce que nous pouvons dire Al-Qayyim bi-al? Na'am. Comment? Il y a Hamzat al-Wasl, sans aucun doute. Mais encore? Pouvons-nous dire Ibn al-Qayyim al-Jawziyya? Oui, vous êtes d'accord? Pourquoi? Ici, il y a Alif Lam. Et il faut l'enlever. Pourquoi? Qui est au niveau 2? Qui a fait le niveau 2 l'année passée? Anta Akhtat. Pourquoi tu lèves pas ta main? Ça fait quel niveau, Karim? Hein? Assalam idan. Ant, pourquoi on ne peut pas dire Al-Qayyim ici? Parce qu'il est mudaf. Parce qu'il est mudaf. Et le mudaf, il devient déterminé par quoi? Par le mudaf ou ilayhi. Donc on ne met pas Alif Lam. Naam. Barakallah fik. Le waw. Rabbana walakal hamd. Dans d'autres versions, Rabbana lakal hamd. Ceci est bon, ceci est bon. Ceci est thabit, ceci est thabit. Mais le waw qu'il y a ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, attire notre attention et détaille la grande science que renferme ce waw. En citant ici le waw, il y a une adoration qui est vouée à Allah en plus. Et des éloges qui sont faits à Allah en plus. Parce que si tu enlèves le waouh, c'est comme s'il y avait une seule phrase et une seule éloge pour Allah Azza wa Jalla. Mais avec ce waouh, c'est comme s'il y avait deux phrases, donc deux éloges pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana lakal hamd. Que ce ham, cette louange revient à notre Seigneur. C'est une phrase. Mais si tu dis Rabbana, lui tu mets le waouh, lakal hamd, c'est deux choses. Rabbana, tu affirmes la rububiyya. Tu dis, ya Allah, tu es mon Seigneur, donc mon Créateur, mon Maître. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal. Puis tu dis, lakal hamd. À toi revient de droit l'ensemble des louanges. Tu as la perfection absolue. Et je te loue. Pour ta perfection, tu mérites ces éloges. Et pour les bienfaits par lesquels tu m'as comblé, tu mérites ces éloges. Donc en mettant le waouh, tu as ces deux sens. En disant Rabbana walakal hamd, avec le waouh, il y a deux phrases. Sans le waouh, c'est une seule phrase. Naam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous a détaillé le hamd qui revient de droit à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous a détaillé la kathra, l'abondance de cette louange. En disant quelle chose? Indaman. Rabbana wa lakal hamd. Hamdan. Non, c'est pas cette dua que nous avons hier. Mil as-samawat. Yani hamdan tamla'u ou yamla'u as-samawat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit autant que puisse en contenir les cieux. Hadi kathratul hamd. C'est un hamd, une louange qui a cette abondance. À un point tel qu'elle remplit les cieux.
Ensuite, Wamil al-ard, elle remplit la terre. Ensuite, Wamil ama baynahuma, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Ce hamd-là, il remplit les cieux, il remplit la terre, et même la distance qu'il y a entre les deux. Et à la fin, ça c'est ma qad yushahad. Ça c'est ce qui peut être vu. Ça c'est ce qui peut être vu. Puis, ce hamd dépasse cela pour arriver à وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدٍ. Et ça remplit tout ce que tu voudras après cela, après les sept cieux, après la terre, après l'espace qu'il y a entre les deux. C'est donc un hamd la hasra la. C'est donc une louange qui n'est pas déterminée, limitée par une connaissance que pourrait avoir le serviteur. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا المقدرين. الخالقين هنا المقدرين. خرجه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. عائشة رضي الله عنها nous dit, très souvent le prophète صلى الله عليه وسلم disait en inclinaison et en prosternation. Quel dua nous avons étudié hier? Andaman, qui était présent hier? Celui qui assiste au cours, il doit venir avec l'intention d'apprendre, d'adorer Allah Azza wa Jal. Et celui qui étudie, il doit mémoriser. Chaque jour, il doit mémoriser un peu. Celui qui ne peut pas apprendre toutes les invocations, il en choisit une, il la mémorise. Maintenant, il connaît son sens et il la met en pratique. S'il n'arrive pas à la dire dans la prière obligatoire, il la dit dans les prières recommandé. Naam. Donc quelle est cette dua? On voit ici kana yukthiru. Très souvent il prononçait cette invocation. Sahib sunna idha waqafa 'inda mithli hadhihi an-nusus yafrahu farahan shadidan. Lannahu ta'allama shay'an kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'tani bihi wa yukthiru minhu. Fa kayfa ba'da dhalika la yafqahu wa la yafhamu wa la yahfazuhu wa la ya'mal bihi. Celui qui aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit ce genre de hadith, il se réjouit énormément. Car il a eu connaissance d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et faisait très souvent. Donc, il est tout ouïe, il écoute, il comprend, il mémorise, puis il applique. Donc, quelle est cette dua qu'il disait très souvent? Subhanak. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم كما اللهم اغفر لي. D'accord. Donc il unissait entre التسبيح et التحميد, puis il citait الاستغفار. Puis il citait الاستغفار. En unissant الحمد ou bien التسبيح والحمد, quel توحيد se concrétise? Et tawhid se divise en combien? En trois. Al-naw'u al-awwal huwa tawhid ar-rububiyyah. Que signifie tawhid ar-rububiyyah? Ma ma'ana tawhid ar-rububiyyah? La seigneurie. Quelle est la définition de tawhid ar-rububiyyah? An Allah al-khaliq, al-raziq, المالك المدبر, يعني إفراد الله في أفعاله. C'est le fait d'avoir comme croyance qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. واضح؟ النوع الثاني من أنواع التوحيد ما هو؟ الألوهية. ما تعرف توحيد الألوهية؟ Quelle est sa définition? إفراد الله بالعبادة. Le fait d'unifier Allah Azza wa Jal de par nos actions, nos actes d'adoration. والنوع الثالث ما هو؟ أسماء الصفات. إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. On affirme ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on affirme ce qu'il a affirmé, ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant subhanallah, tu dis qu'Allah azza wa jal est exempté de toute imperfection et de tout défaut, et de toute ressemblance avec ses créatures, ou qu'une de ses créatures puisse lui ressembler. En disant alhamdulillah, après avoir établi ou fait cette négation, tu affirmes qu'il a la perfection absolue. Ainsi, Tawhidullah fi al-asma'i wa sifat se concrétise. Il y a la négation, puis l'affirmation. Ensuite, al-istighfar. Qu'avons-nous dit sur al-istighfar? Qu'avons-nous dit sur al-istighfar? Tafadhalat. Al-istighfar yulazimuka min awwal salatika ila ma ba'da salatik. Al-istighfar t'accompagne dans ta prière du début de la salat jusqu'après la salat. Na'am, jusqu'à la fin de la salat et même après la salat. Dans l'istiftah. Ensuite, dans le ruku'. Ensuite, al-sujud. Ensuite, al-jalsatu bayna sajdatayn. Lorsque tu t'assois entre les deux prosternations jusqu'à la fin de ta salat. Puis, après tashahud al-akhir, na'am, comme dans la dua que le prophète sallam a enseigné à qui? Abu Bakr. Puis tu fais taslim, tu as fini ta salat. Est-ce que l'istighfar s'arrête ici? Non. Qu'est-ce que tu dis ensuite? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors que tu sors de l'adoration la plus aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa mahma amilt wa mahma ijtahadt, Allah azza wa jalla yastahiqu akthar wa ahsan mimma qaddamt. Na'am. Wa anta al-muqassir wa nahnu al-muqassirun. Quelle que soit la perfection de l'action que tu as pu avancer pour Allah tabaraka wa ta'ala, quelle que soit la sincérité et la conformité d'avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont tu as pu, yani que tu as pu appliquer dans cette salat, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite ce que tu as fait et plus encore. Et nous sommes, yani, ceux qui avons eu des imperfections dans cette prière. Alors on demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on ne saurait l'adorer comme il le mérite, subhanahu wa ta'ala, et lui être reconnaissant comme il le mérite pour tout ce qu'il nous a donné, que l'on connaît et qu'on ignore. As-sujud, lors de la prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aisha radiallahu anha, si mes souvenirs sont bons, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous dit que le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Na'am. Et ceci sera détaillé dans le hadith qui viendra. Une qissa que raconte le shir al-Sharih hafidhahullahu ta'ala, il dit qu'un jour un homme est passé près d'un groupe de musulmans qui accomplissaient la prière. Le Cheikh Abdelrazzak raconte cette histoire. Hafidhahullah ta'ala dit qu'un homme, pour la première fois, a vu des musulmans dans la prière. Et il s'avère qu'il les a vus en prosternation, en sujoud. Lorsqu'il a vu cette image, imaginez, et à Salat al-Jum'ah, une autre, la personne voit tout le monde prosterné dans le masjid pour Allah Azza wa Jal. Cette image-là l'a bouleversé. Il a dit, cette action, ces gens-là posent leur front et leur visage, c'est-à-dire la chose la plus élevée et la plus noble qu'ils ont au plus bas, Cela ne peut être fait que pour celui qui mérite l'adoration. Puis il est parti trouver ces gens et il leur a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Ils lui ont dit, la prière. Vous priez qui? Ils ont dit Allah. Il leur a dit qui est Allah? Ils lui ont expliqué qui est, ils lui ont enseigné qui est Allah et il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a vu un soujoud. Et que les musulmans posaient leur front et leur visage au plus bas. Ils posaient leur front et leur visage au plus bas. Il en a donc déduit que cette action ne pouvait être faite que pour celui qui la méritait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais la sunnah que tu dis très souvent en ruku, en sujoud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghafirli. Aisha dit à ta'awwalu al-Qur'an, ma ma'na ta'awwil. Aisha radiallahu anha a dit qu'elle a ta'awwalu al-Qur'an, ma ma'na ta'awwil. Que signifie ta'awwil? Non. Ta'awwil, tafsir, l'interprétation. D'accord. Est-ce que c'est ce qui est voulu ici dans le hadith? Allahu alam. Non. La'alla karibt al-bariha. Probablement que tu étais absent hier. Na'am akhana. Mettre en pratique. Que signifie ta'wil? Ta'wil revient à l'un de ces deux sens. Soit tafsir, l'explication, l'interprétation. Soit ma'al ou shay. Soit la finalité de cette chose. D'accord? Cette chose peut soit être un khabar, une information, soit un talab, une demande, un amr, un ordre. فَتَأْوِيلُ الْخَبَرُ وُقُوعُهُ. تَأْوِيلُ الْخَبَرُ, c'est lorsqu'il a lieu, c'est lorsque la chose se concrétise, se réalise. Comme nous avons cité l'exemple dans Qissat Yusuf alayhi salam, la vision en rêve, puis la réalisation de cette vision. Et ici, كَانَ تَأْوَلُ الْقُرْآنُ, elle fait référence à quel verset? Au verset de Sourate An-Nasr. Au verset de Sourate An-Nasr. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire du tasbih, du hamd et du sirfar. Donc ta'wil al-amr, c'est imtithal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est dans Sourate An-Nasr. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. خرجه مسلم. Donc عائشة رضي الله عنها. Quelle est la cunia de عائشة? La cunia, c'est ce qui est pris du père ou de la mère. La mère d'un tel, le père d'un tel. C'est Umu Abdillah. Est-ce qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Abdullah? Non, elle n'a pas eu d'enfant, radiallahu anha. Donc, comment se fait-il qu'elle a pour cunia Umu Abdillah? C'est la cunia de sa sœur, qui se nomme Hafsa, c'est la fille d'Omar al-Khattab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se nomme, elle est très connue, Asma, et c'est l'épouse de Naam Az-Zubayr ibn Awwam al-Mubashirin bil Jannah. Et sachez également qu'on peut prendre une kunya sans être marié. Naam, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au frère de Anas ibn Malik lorsqu'il avait perdu son oisillon, Ya Aba Umayr, Mada Fa'ala, Nughay. Ok, ma qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha nous rapporte encore, et dans cela, les savants disent qu'il y a le mérite des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elles nous ont transmis une grande partie de la législation. Une grande partie de la législation des paroles et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subbuh, Quddus sont deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subbuhun Quddus, sont deux noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quddus a été cité dans le Coran, dans Surat al-Hashr par exemple. Et c'est venu également dans As-Sunna. Et ici, Subbuhun. Nous avons compris le sens de At-Tasbih et nous avons déjà cité le sens de At-Taqdis. Les noms, soit nous, ils nous amènent un sens qui est affirmatif, na'am, soit la négation de quelque chose. Jusqu'à présent, et très souvent, on citait plutôt le domaine affirmatif. Na'am, Ar-Rahim, par exemple, donc le très miséricordieux, il y a la tribu de Ar-Rahma. On affirme Ar-Rahma pour Allah Azza wa Jal. Al-Aziz, le puissant, on affirme pour Allah Azza wa Jal. Al-Izza, la puissance. Al-Qawi, le fort, on affirme pour Allah Azza wa Jal. Al-Quwwa, la force, et ainsi de suite. Il y a également des noms qui viennent infirmer quelque chose, rejeter quelque chose. Subbuh et Quddus. Il y a également As-Salam, comme dans Surat al-Hashr. Ce sont des noms qui viennent nous enseigner qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempté de toute imperfection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté et pur de toute imperfection. D'accord? Donc voici l'essence de Subbuh, de Quddus, et proche de ces sens-là, As-Salam. Proche de ces sens-là, As-Salam. Idhan, Subbuh, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, dalla ala at-tasbih wa huwa at-tanzih. Donc Subbuh est un des noms d'Allah Azza wa Jal, qui nous indique qu'Allah Azza wa Jal est exempté de toute imperfection, de tout défaut, et de toute ressemblance avec ses créatures. Quddus, دل على اسم من أسماء الله عز وجل دل على التقديس وهو التنزيه أيضا. القدوس c'est un des noms d'Allah عز وجل qui nous indique التقديس et c'est aussi le fait de dire qu'Allah عز وجل est exempté de tout défaut. Quant à la différence subtile qu'il y a entre les deux, il faudra questionner plus savant que moi. Et si Allah عز وجل nous facilite, on interrogera certains de nos savants à ce sujet. Le Cheikh Abdelrazzaq Hamidahullah Ta'ala nous cite une faïda, une information subtile et profitable. Il dit Asma'ullah subhanahu wa ta'ala bi'atibari dalalatiha aqsam. Yani ceux que nous indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal et de yani les choses que les ou bien ceux que nous indiquent les choses les noms d'Allah Azza wa Jal sont de trois sortes. Premièrement, ma dalla ala sifatin dhatiyya, ce qui nous indique un attribut d'essence. Naam, un attribut qu'Allah Azza wa Jalla a tout le temps. Comme As-Sam'a, comme Al-Basar. Naam. Comme, yani, par exemple, As-Sami', il y a sifatu As-Sam'a. Qu'Allah Azza wa Jalla entend. Allah Azza wa Jalla entend tout le temps. C'est une sifat mulazimatun lidhat. Ceci viendra très prochainement. On va étudier un livre, Inch'Allah, dans ce mot sifat. Inch'Allah ta'ala. Le deuxième point, ma dalla ala sifatin fi'liya. Ce qui nous indique un attribut d'action. Ce qui nous indique un attribut d'action. Par exemple, Al-Ghafour. Na'am. Al-Ghafour dalla ala sifati al-maghfira. Al-Razzaq dalla ala sifati. Hein? Al-Rizq. Vous êtes sûr? Al-Razq. Bifath al-Ra. Al-Rizq, c'est la chose. Al-Rizq, c'est ton argent. Al-Rizq, c'est tes enfants. Al-Rizq, c'est ton or. Ça, c'est un risque. Al-Razq. Al-Razq. C'est la sifa. Est-ce que c'est compris? Al-Razq. Avec la fatha, ceci est l'attribut. On ne dit pas al-Rizq pour l'attribut. On dit al-Rizq pour la chose. Et on dit al-Razq pour l'attribut. Barakallahu fikum. Donc, Al-Ghafour, le grand pardonneur, yani, ça nous indique l'attribut de l'Maghfira, du pardon. Il pardonne. L'action de pardonner. Al-Rizq ou bien Al-Razzaq, l'attribut de Al-Razq qu'il accorde la subsistance. Et troisièmement, et c'est ce qui est en relation avec ces deux noms, Madalla ala tanzih, ce qui nous indique qu'Allah Azza wa Jal est exempté de défauts et d'imperfections. Comme Subbuh comme Quddus, comme As-Salam. Naam. Et avec tous ces noms, ces attributs et ces invocations, on comprend que Asma'ullah subhanahu wa ta'ala, A'lamun wa awsaf, ça ne sont pas que des noms propres dénués de sens et d'attributs. Donc tu vas invoquer Allah Azza wa Jalla en ruku' avec cela. Tu dis Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati wa Ruh. Donc il convient vraiment de comprendre ce que l'on dit. Tu en recours, et certaines personnes se disent, mais pourquoi l'imam un tel ou un tel dure plus longtemps que nous? Nous on dit Subhan Rabbi al-Azim. Subhan Rabbi al-Azim, trois fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains d'entre eux. Et tu sais désormais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait trois invocations. Tu as appris la première, hier la deuxième, voici une troisième. Elle est courte et facile à mémoriser. Naam. Qui ne la mémorise pas, on la mémorise ensemble de suite. Qui ne la mémorise pas? Ant? Oui. Subbuhun quddusun. Irfa'a sautak, élève ta voix. Subbuhun. Subbuhun avec un ha à la fin. Subbuhun. Subbuhun. Quddusun. Subbuhun. Quddusun. Répète les deux ensemble. Quddusun. Rabbul Malaikati. Rabbul Malaikati. Rabbul Malaikati. Malaikati. Rabbul Malaikati. سبوح قدوس رب الملائكة رب الملائكة رب الملائكة والروح والروح شو أبخان فيت اللهم بارك. Donc tu répètes cela, et à partir du Isha, Inch'Allah Ta'ala, tu adores Allah Tabaraka wa Ta'ala avec cette invocation qu'a prononcé ton messager et ton prophète alayhi salatu wassalam. Hadi ni'matun azimatun jiddan. Ça, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous, énorme. Le fait de pouvoir dire ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il adore Allah Tabaraka wa Ta'ala, d'avoir étudié cela, d'avoir compris le sens, puis invoquer Allah Azza wa Jal avec cela. Hadi ni'matun azima. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Après avoir dit Subbuhun Quddusun, qui sont deux noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, tu dis Rabbul Malaikati wa Ruh. Al-Rabb, Wallahu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Malaika, Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de toutes choses. Et ici, on nous cite particulièrement Al-Malaika. Al-Malaika tu jam'u malak. Al-Malaika, c'est le pluriel du mot malak. Ça veut dire ange. Donc c'est le Seigneur des anges. Wa fi dhalika iqrarun bi rububiyyati Allah subhanahu wa ta'ala lil malaika. Et dans cette phrase, tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des anges. C'est le Seigneur et le Maître des anges. C'est celui qui les a créés. C'est celui qui leur ordonne et leur interdit. C'est celui qui les gère. Subhanahu wa ta'ala. Et les anges, khalqun azim, khuliqu min nur. Les anges sont une créature, sont des créatures dotées d'une grande force et d'un grand, ils sont bien plus grands et plus forts que nous. Ils ont été créés de lumière. Et la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais Allah Azza wa Jal. Ils ne penchent pas vers le péché. Ils ne font qu'adorer Allah Azza wa Jal sans jamais se lasser. Certains ont deux ailes, d'autres trois, d'autres quatre, comme ça nous a été cité dans le Coran. Et certains ont des actions précises et des missions précises. Na'am, certains nous connaissons le nom. Et d'autres, on l'ignore, comme Jibril, Mikaïl, Israfil, Naam. certaines actions, comme venir avec la révélation pour Jibril, comme Malik, gardien de l'enfer, et d'autres. Pour certains, nous connaissons la description. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a vu Jibril, il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Donc nous devons avoir foi en cela, et ça fait partie des piliers du iman, des piliers de la foi. C'est ruknu thani min arkan al-iman, c'est le deuxième pilier de la foi. L'iman ou billah, c'est le premier. L'iman ou bil malaika, c'est le second. وفيه أن الملائكة عبيد لله. On tire également de cela que les anges sont des serviteurs d'Allah تبارك وتعالى. Donc seul Allah mérite l'adoration. طوع أمر الله, ils sont soumis à son ordre. Puis après avoir dit رب الملائكة, on dit والروح. Qui est-ce qui est voulu ici par الروح؟ عند من؟ نعم. Jibril, Ibrahim alayhi salam, l'ange Jibril. Hadha min bab dhikr al-khas ba'd al-'am. Ceci fait partie de ce qu'on appelle citer la particularité après avoir cité la généralité. Est-ce que Jibril n'entre pas dans al-mala'ika précédemment cité, Rabbul mala'ika, Allah est le seigneur de tous les anges. Est-ce que Jibril entre dans tous ces anges ou pas? Oui. Pourtant on dit ensuite war-ruh et ar-ruh. Pourquoi ce? Quelle est la sagesse? Pour lui donner une place toute particulière. Pour lui donner une place toute particulière. Tashrifan la wa ta'liyatan li qadri. C'est pour l'élever et montrer sa place toute particulière, car c'est le meilleur des anges. C'est le meilleur des anges. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. ولماذا سمي جبريل روحا؟ Et pourquoi est-ce que Jibril a été appelé روح؟ نعم عند من؟ نعم اخي الله اكبر جزاك الله خيرا. Comment est-ce que je t'appelle? Mohamed. Barakallahu fik Mohamed. C'est la bonne réponse. Car Jibril alayhi salam yanzilu bil wahy. Na'am, muwakkal bil wahy. Car Jibril est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Car Jibril est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Et si tu ajoutes une phrase à cela, ta réponse sera parfaite. Et, je t'aide. Et, عندما Mais pourquoi on l'a appelé comme ça? Les mal assumés à Kadhalik. Alaesh. Comment t'as coulé? Bihadfillam. Donc, vous tardez à répondre. Naam. Jazakallahu khayran. بالوحي الذي به حياة القلوب. Car Jibril alayhi salam est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes, aux messagers, par laquelle il y a la vie des cœurs. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelait Ruh. Ruh, on peut dire ça pour une âme. Quand on te retire l'âme, c'est la fin de ta vie. Sahih? Ben, avec la révélation, il y a la vie des cœurs. Sans le Coran, sans Sunna, sans l'islam. Annas mayitoun. Naam. Ou mauta. Les gens étaient morts dans la djahiliyya. Et lorsque le Coran leur a été révélé, ils ont vécu. C'est pour ça qu'on a appelé Jibril Ruh, car il vient avec la révélation de par laquelle Allah Azza wa Jal fait vivre les cœurs. On a également appelé la révélation elle-même Ruh. Hein? Sahih ou la? Ou non? Dans quel verset? Dans quelle sourate? C'est plus facile. Pourquoi t'as baissé ta main? Dis-moi le verset. Comment? وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Dans sourate Ash-Shura. Donc on a également appelé la révélation Ruh. Donc Ruh, Jibril a été appelé Ruh. Et la révélation elle-même a également été appelée Ruh. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Le hadith suivant. وخرج أيضا أي الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. الحديث suivant le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma. Qui est Al-Abbas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certaines fawaïdes sont passées, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, on partage et on se rappelle. Et nous avons tous besoin de nous rappeler. Al-Abbas, pas Ibn Abbas, Al-Abbas, qui était-il? C'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, le fils de l'Abbas, qui se nomme Abdullah ici, na'am, car il y en a plusieurs qui étaient musulmans, comme Al-Fadl, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand savant du Coran. Il nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, on m'a interdit de réciter le Coran lorsque je suis incliné ou prosterné. On m'a interdit de réciter le Coran en étant incliné en ruku' ou prosterné en sujoud. Quant à l'inclinaison, exalter le Seigneur, proclamer son immensité. Et dans la prosternation, efforcez-vous de faire des invocations. Efforcez-vous d'invoquer Allah, de demander à Allah, ou bien d'invoquer Allah. فَقَامِنٌ أي حَرِيٌ جَدِيرٌ فَقَامِنٌ il est plus susceptible que vous soyez exaucé. أَيُسْتَجَابَ لَكُمْ. Ce moment-là où vous êtes en sujoud, na'am, la réponse d'Allah Azza wa Jalla est plus proche. De par l'état dans lequel tu es, et aussi peut-être par les paroles que tu prononceras. Donc, dans ce hadith que nous rapporte l'imam Muslim, le hadith Ibn Abbas radiallahu anhu, on voit l'interdiction de réciter le Coran en ruku' et en sujoud. Naam. Mais les savants ont dit que c'était permis, lorsque par exemple tu es en sujoud, tu veux faire dua. Et cette dua elle est dans le Coran. Toi, tu ne vas pas réciter du Coran, mais tu vas t'inspirer de cette parole-là et tu vas la dire avec tes mots. Ainsi, ça ne sera pas du Coran. Est-ce que vous avez compris? Ça ne sera pas du Coran. Mais tu vas demander ce qui est peut-être dans le Coran. Mais toi, tu ne veux pas réciter du Coran car tu sais que le prophète sallam a dit qu'il nous a été interdit. Que cela nous a été interdit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une faïda dans ce hadith. Sachez, يعني اعلموا ان هذه الكلمات من اواخر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Sachez que ces paroles font partie des dernières paroles qui ont été entendues et rapportées du prophète صلى الله عليه وسلم في ايام مرضه, dans ces jours qui ont précédé sa mort, alayhi salatu wassalam. Dans le recueil de l'imam Muslim, ça c'est une partie du hadith. Au début du hadith, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti un peu mieux. Donc il a tiré le rideau de sa chambre et il a vu les musulmans unis, yani soufoufan, en rang pour la prière. Ils étaient unis dans le masjid, ils étaient en rang et Abu Bakr radiallahu anhu était devant, le meilleur de la communauté. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, innama baqiya min an-nubuwa al-mubashirat wa hiya ru'yat as-salihah yaraha al-mu'minu aw yura aw tura lahu. Na'am. Thumma qala ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il ne restait qu'il ne restait de la révélation que les bonnes annonces. Et c'est le rêve que fait le croyant, dans lequel il voit quelque chose de bien, une bonne nouvelle, une bonne chose, une belle chose. Ou bien, yani la personne pieuse voit cela, ou bien quelqu'un voit cela pour lui. Soit toi tu fais un rêve et ça te concerne, soit une personne de bien fait un rêve te concernant. Naam, un rêve te concerne. Il n'a pas dit la personne pieuse, il a dit le croyant. C'est la bonne vision que voit le croyant, ou bien pour qui on a vu cette chose-là. Puis il nous a cité ce hadith. Donc on ne récite pas Al-Qur'an ou Al-Karim en prosternation, ni en inclinaison. Ce qui convient de faire en inclinaison, c'est ce que nous avons déjà étudié. C'est ta'zimullah, al-tasbih wa c'est le fait de proclamer qu'Allah Azza wa Jalla est exempté de tout défaut en citant de sa perfection et de son immensité. En sujoud, on proclame qu'Allah Azza wa Jalla est exempté de défaut et on proclame son élévation, plus les autres invocations que nous avons vues. Ici, un ajout, c'est quoi? C'est que as-sujoud, c'est un moment et une station où il convient de faire beaucoup de dua. Il convient de faire beaucoup de dua. C'est pour ça qu'il convient à ceux qui président la prière pour les musulmans de ne pas picorer dans la salat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut nous-mêmes, les imams, invoquer Allah Azza wa Jalla parce qu'on en a besoin autant que les autres, si ce n'est plus. Et pour que les autres aussi fassent ad-dua, car nous avons tous besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala et nous avons des besoins sans cesse. Et sans Allah Azza wa Jalla, on ne peut survivre ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc on lui demande. Et un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur, pour demander, c'est en sujoud. Naam, c'est en sujoud. L'un parmi les prières dit, alors que l'imam a pris une prière qu'on pourrait qualifier de normale, pas excessivement longue, il a dit dans son dialecte, et Ani, c'est quoi cette prière? C'est salat al-tarawih ou quoi? C'est quoi cette prière? Salat al-tarawih ou quoi? Salat al-tarawih, c'est notre plaisir. Ou salat al-faridah, c'est notre plaisir. En disant cela, c'est comme si salat al-tarawih, il y avait un problème avec salat al-tarawih. Ou bien avec salat al-faridah. Non. Si on compare nos salawat avec les salawat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salawat de Abu Bakr, de Omar et autres, on va voir qu'on est très loin. On va voir qu'on est très loin pour les pieux parmi vous. Dans Salat al-Fajr, Omar ibn Khattab récitait parfois Surat Yusuf. Elle fait plus d'une dizaine de pages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Maghrib, récitait Tour, Al-A'raf. Dans Salat al-Layl, il commence sa salat, il récite Al-Fatiha, puis Al-Baqarah. Le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter à ce moment-là. Pendant la salat, pendant Al-Baqarah. Puis il complète Al-Baqarah. Alors le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter là. Puis il entre dans Al-Nisa. Le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter à ce moment-là. Il continue. Puis il entre dans Ali Imran. C'est pas une erreur. Il a bien fait Al-Nisa, puis Ali Imran. Puis seulement il a fait Ruku'. Il nous dit, il a fait un Ruku' semblable, donc dans la durée, autant qu'il est resté debout. Combien de temps il faut pour rester Al-Baqarah? Enfin un moment. Ensuite Al-Nisa. Ensuite Ali Imran. il a fait ruku' proche de ce temps-là, puis il s'est relevé proche de ce temps-là, puis sujoud proche de ce temps-là. Dès qu'il passa un verset où on citait des bienfaits, il demandait ce bienfait à Allah, il demandait rahma. Dès qu'on citait un verset où il y avait le châtiment et autres, il cherchait refuge auprès d'Allah ou protection auprès d'Allah. C'est comme cela qu'il convient de faire salat. Tu médites la récitation, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu te sens proche de lui et tu prends du plaisir dans le fait qu'Allah azza wa jal t'a permis d'être son serviteur pieux, t'a permis de t'incliner pour lui, te prosterner pour lui. Hada takrimun. Ça, c'est un honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait. C'est un honneur qu'Allah te fait en te permettant de venir te tenir debout devant lui. Ça, tu dois le savoir. Allah Azza wa Jal t'a honoré lorsqu'il t'a permis de t'incliner, te prosterner, te tenir debout, réciter le Coran et ainsi de suite. Tu n'as aucun mérite dans cela. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a guidé à l'islam. Puis il t'a guidé à la sunnah, il t'a guidé à la salat, au ruku', au sujoud. Donc tu dois remercier Allah Azza wa Jal et faire davantage. Tu remplis tes obligations, puis tu ajoutes à cela des actions surérogatoires. Ad-du'a peut être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala pour plusieurs causes. Ça peut être dû à la noblesse du moment, comme par exemple les nuits de Ramadan, les jours de Ramadan, ou les 10 dernières nuits, ou bien les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Ça peut être dû à l'endroit, ou bien le dernier tiers de la nuit pour les moments. Ça peut être dû à l'endroit, parce que tu es dans un endroit qui est meilleur qu'un autre. Ça peut être également dû à ton état, comme as-sujud. Et ces choses-là peuvent s'unir sur une personne. Il peut être dans un moment méritoire, dans une station méritoire, et dans un mada, dans un endroit méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Kama kharajahu muslim aqrab ma yakoum » Al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'état dans lequel le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Lorsqu'il est en prosternation. Fa'akthiru du'a. Donc, multipliez les invocations. Multipliez les invocations. Tu dis les adhkar, puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries en groupe, si tu es l'imam, na'am, tu n'exagères pas dans le temps, car il y a derrière toi des personnes âgées, des faibles et des gens qui ont des besoins. Mais lorsque tu es seul, atil mastata'at. Na'am, atil mastata'at. Yani allonge ce temps et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc as-sujud, c'est un état où tu es très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Les savants disent yann as-sujud, car la prosternation hiya akmalul hay'at dhullan wa khudu'an. Car la prosternation, c'est l'état de soumission et d'avilissement le plus complet. L'état de soumission le plus complet. Car tu poses ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé au plus bas sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui t'a créé toi et cette terre sur laquelle tu te prosternes. L'homme n'aime pas se rabaisser. Mais il se rabaisse devant Al-Wahidul Qahhar. Mais il se rabaisse devant l'unique, le dominateur suprême. Et lorsqu'il se rabaisse, il se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas, yani, d'imperfection dans ce cas-là. Mais c'est plutôt ça la perfection. De s'humilier devant son créateur, de se rabaisser pour son créateur. Quant au fait d'adorer des créatures, ça c'est blâmable. Parce que ces créatures n'ont pas de mérite sur toi. Ils ne t'ont pas créé. Ils n'ont pas créé la terre sur laquelle tu te prosternes, ni autre chose. Donc méditer cet état. Tu poses ton front qui était au plus haut, ton visage, duquel tu prends soin au quotidien. Certaines personnes, même parmi les hommes maintenant, na'am, ils achètent des produits, sahih. Et un produit pour ça, un produit pour la peau, un produit pour kada, un produit pour kada, un shampoing pour ça, un autre shampoing pour ça. Na'am. Alors que d'autres, je vais pas en dire plus. Ou des femmes. Et ça, si on rentre dans ça, on va plus s'arrêter. Na'am. Peut-être Zawj, il arrive en retard au travail, à cause d'elle. Mais malgré ça, subhanallah, ce visage duquel il prend soin, ce visage qui est beau, ce visage qui est, qu'est-ce qu'il fait? Il le rabaisse et il le pose face contre terre. Allahu Akbar. Hadha huwa dhul bi'ayni. Ça c'est véritablement l'humiliation. Le rabaissement, l'avilissement et l'adoration qui doit être vouée que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et certains parmi les ulama faisaient des khutab sur la sujoud. Pour pas que le musulman fasse la prosternation comme si c'était une autre, une action comme les autres. Non. La sujoud, la prosternation, c'est une des adorations et une des actions les plus particulières. Au point où les savants ont divergé. Quelle est la meilleure station dans la salat? À votre avis, quelle est la meilleure station dans la salat? La meilleure position ou le meilleur moment? Le sujoud, comment? La position debout? Qu'est-ce que tu dis toi? Sujoud? Si c'est, qu'est-ce que tu réponds toi? C'est quoi le mieux? Quand on est debout, on lit le Coran ou quand on est prosterné?
Quand on est debout, pour faire le lien avec mal.
Ça, c'est la première réponse. Jazakallah khair. Certains savants ont dit la meilleure position dans la salat, c'est quand on est debout. Pourquoi? Parce que ce que tu lis, c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que tu lis, c'est la parole d'Allah azza wa ta'ala. Donc, c'est la station la plus noble. D'autres ont dit non. C'est un sujoud. Parce que c'est la station la plus humiliée que le serviteur, c'est la station la plus humiliée dans laquelle puisse se retrouver, et un peu se retrouver, le serviteur. Et d'autres ont dit, c'est ce qui te donne le plus de khushu. Plus tu as l'humilité, et un mieux c'est pour toi. Donc ça peut être par un moment celle-ci, par un moment celle-là. Voici pour Mada pour ce hadith. Donc il faut faire beaucoup de dua, car dans cette prosternation, ou bien durant la prosternation, tu es dans une situation où, yani, ça qui t'est très favorable pour te voir exaucé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les personnes pieuses disaient, lorsque j'ai un gros souci, je cours vers la salat. Et après le premier sujoud, c'est comme si une montagne avait été ôtée de mon dos. Après le premier sujoud, c'est comme si une montagne avait été ôtée de mon dos. Yani al-humum wal-humum wal-ahzan wal-mashakil wa al-at'ab wa al-duyun wa al-awlad. Yani les soucis, les tristesses, les dettes et ainsi de suite. Dès que la personne est en sujoud, c'est Omar ibn Khattab disait, je ne me soucie pas de savoir quand est-ce qu'on va me donner ce que je demande. Mon seul souci, c'est de faire dua. Quand Allah me facilite à faire dua, j'attends la tranquillité. Allah dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Et dans un autre verset, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Yani la traduction en sourate al-Baqara donc, et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande lorsqu'il m'invoque. Et remarquez ici que très souvent dans le Coran, on voit il te demande, alors dis. Il te demande, alors réponds. D'accord? Quoi comme exemple par exemple? Ils ont questionné à quel sujet? Yas'alunaka 'anil al-mahid faqul wa adha. Yas'alunaka 'an al-anfal. C'est compris? Qul ou bien faqul. C'est compris? Dans ce verset, qu'est-ce qu'on trouve? Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, est-ce qu'on a dit faqul inni qarib? Qul inni qarib? Non, inni qarib directement. Quelle est la sagesse de ne pas avoir mis ce qu'on trouve très souvent dans le Coran, qul ou bien faqul? Les savants ont dit, notez cela. Les savants ont dit, car Allah Azza wa Jal n'a pas voulu mettre d'intermédiaire entre son serviteur et lui-même. Tu lui demandes directement. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Ad-Dua, n'est pas ton intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à ton Seigneur et ton Créateur directement. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de wasita. Tu n'as pas besoin d'une personne pieuse. Car toi, tu es trop impur ou trop pécheur ou trop loin d'Allah Azza wa Jal pour lui demander directement. Non. Allah Azza wa Jal, fataha laka al-abwab. Allah t'a ouvert les portes de la miséricorde. Tu lui demandes directement, où que tu sois. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, quel que soit ton état, quels que soient les péchés, quelle que soit ta situation, tu demandes à Allah Azza wa Jal, inna Allah wa amada inna rabbi la sami'u dua. Et Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, est celui qui écoute ta demande et qui répond à ta demande. Wallahu a'lam wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا.